Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
Nous sommes lundi 17 avril. Bonne journée, bienvenue au 98.5. Cette décision qui avait été extrêmement controversée à l'époque, qui avait été rendue par la Cour supérieure des parents qui faisaient ce que j'appelle un peu d'acharnement médical pour des questions religieuses. Et Sainte-Justine était allée devant la cour. C'est un enfant qui, malheureusement, qui a 5 ans, qui a été retrouvé dans une piscine. Il est resté sous l'eau, on avait dit ça à l'époque, je pense, une quinzaine de minutes, 20 minutes. Et c'est la grand-mère qui supervisait. Puis je le dis, là, ce sont des gens très pieux, très religieux. Et l'enfant avait été extubé par décision de la Cour supérieure du Québec. Parce que les médecins disaient que il était dans un coma, il était intubé. Ça durait depuis 7 mois, le cerveau était atteint. Et les médecins étaient à peu près convaincus qu'il pouvait respirer de manière autonome. Donc on a dit, on va retirer le tube, parce que le tube causait plus de dommages finalement que de bien. Et les parents s'opposaient à ce qu'il soit extubé. Voulaient que cette procédure soit maintenue. Ils sont allés en appel et ils ont perdu la cause en appel. Ce qui fait que finalement, le garçon a été extubé au mois de février. Et ce qui est absolument incroyable, on n'a pas les détails sur le plan médical, là, mais en lui enlevant le tube en question, son état s'est amélioré à un point tel qu'il peut retourner chez lui aujourd'hui. C'est quand même... On va parler avec l'avocat de la famille tantôt. Et pour la famille, j'ai le besoin de préciser que, comme ils sont extrêmement religieux, ça représente une forme de miracle. Le seul fait qu'il soit vivant, on est content. On peut lire ça dans la presse ce matin. On sait que c'est la main de Dieu et les bons soins qu'il a reçus. Je suis en extase et tout ce que je dis, c'est merci. Seigneur, merci à toute l'équipe médicale. Et c'est quand même rare là, qu'un hôpital va se rendre devant le tribunal pour ce qui est d'un traitement, d'arrêter ou de maintenir de force un traitement. Puisqu'on parle de la santé, il y a aussi dans la presse ce matin, on a beaucoup parlé la semaine dernière du fameux médicament qui fait maigrir, là, qui est un médicament prescrit pour les gens qui sont atteints de diabète de type 2, l'Ozempic, et il y a différents médicaments là, qui ont le même effet. Alors, la RAMQ ne rembourse pas, semble-t-il, ce médicament dans aucune circonstance, même s'il est autorisé par Santé Canada. Ce sont des traitements coûteux qui ne sont pas couverts pour des patients qui en auraient besoin, notamment pour accéder à une opération ou une greffe. Et là, vous avez des médecins qui disent que c'est un médicament qui est reconnu et que on le sait qu'il est prescrit pour les diabétiques, mais il est aussi prescrit pour des gens qui ont des problèmes de poids. Et pourtant, jusqu'à maintenant, la régie refuse de couvrir ce médicament. Et on fait vivre un enfer à un patient, alors qu'on a une solution qui existe. Le médicament, semble-t-il, suscite trop d'incertitudes aux yeux du ministère en ce qui a trait, quand on fait le rapport là, des bénéfices et des impacts, parce que comme tout médicament, il a un effet secondaire. Et puisqu'on parle de santé, le ministre de la Santé sera avec nous aujourd'hui, Christian Dubé. C'est la semaine de la commission parlementaire sur la grande réforme de la santé, la création de l'Agence de la santé. Et depuis que ça a été déposé, vous avez entendu, je pense, à peu près tout ce qu'on va voir dans les prochains jours comme réaction. Alors, l'enjeu de l'ancienneté. C'est une bataille syndicale forte à venir. Je parlais avec des gens en fin de semaine qui me disaient ils sont inquiets parce que si l'ancienneté, avec un employeur unique, permet à quelqu'un de garder l'ancienneté et de quitter, il y a des hôpitaux de Montréal qui vont se vider au profit d'hôpitaux de la périphérie. En même temps, on se dit, oui, mais quelqu'un qui, pour toutes sortes de raisons légitimes, change d'hôpital ou de poste dans le réseau de la santé, pourquoi il recommencerait à zéro au niveau de l'ancienneté. Et ce qui est en train de se produire avec le secteur de la santé, c'est vrai pour Hydro-Québec, c'est vrai pour beaucoup d'entreprises. Les employés souhaitent, quand c'est possible, avoir souvent un poste ailleurs pour ne pas se taper la congestion de Montréal, puisque l'île de Montréal, sur le plan de l'immobilier, du logement, c'est devenu de plus en plus inaccessible. Alors, ça, l'ancienneté, c'est un enjeu. Faire travailler plus les médecins spécialistes, là aussi, il y a, disons, je dirais un bon face-à-face qui est prévu. On accuse le ministre Dubé de centraliser dans une agence. Les médecins spécialistes, entre autres, disent si on crée une agence, c'est parce qu'il y a un problème assez sérieux au ministère. Et est-ce qu'il y aura toujours cette responsabilité ministérielle? Est-ce que le ministre de la Santé va dire, c'est pas dans ma cour, moi je fais les grandes orientations, puis aller voir l'agence pour répondre à vos questions. Donc, il sera avec nous ce matin. Et l'autre, peut-être dernier point, c'est un projet de loi mammouth, là, pour le mammouth. On est à quoi? Moins de 2 mois de la fin des travaux parlementaires. Est-ce qu'il pense qu'il va être capable de faire adopter le projet de loi, là, qui a, je sais plus de combien de centaines d'articles? C'est un défi, c'est un défi. Alors, on va lui parler tantôt. Très bien, on va parler de Parcomètre ce matin. Une affaire, encore une fois, bizarre avec la ville de Montréal. Je vous résume dans The Gazette. On apprend que Montréal a décidé de prolonger l'horaire payant des parcomètres dans le centre-ville, l'arrondissement Ville-Marie. Et pour vous donner une idée des périodes tarifées, ben, du lundi au vendredi, ce serait passé de 8 heures le matin à 23 heures, alors qu'actuellement, c'est 21 heures. Samedi, de 9 heures à 23 heures. Et puis dimanche, 9 heures le matin, alors que normalement, c'est l'après-midi, jusqu'à 18 heures. Alors, vous comprendrez que plein de commerçants qui ont trouvé que ça n'avait pas de bon sens, des gens qui sont très impliqués dans le développement du centre-ville de Montréal, certains conseillers municipaux, surtout que le prix du parcomètre avait augmenté dans certaines zones de 3,75 $ à 4 $. Donc, tu dis, la ville a décidé de passer à gratte puis ramasser bien de l'argent de plus avec les parcomètres. Puis là, quand je parle du centre-ville, je parle de Mansfield, je parle de Bishop, des rues vraiment du centre-ville de Montréal. Alors, hier, on décide évidemment de revenir là-dessus. Communique avec la ville. On dit, bon, ben, venez nous expliquer pourquoi vous faites ça. Puis là, finalement, ben là, pas tout à fait ça. Ils ont pris la décision à Mobilité Montréal, mais on n'a pas su vraiment. Je dis, pardon. Ils sont en train de changer la tarification des parcomètres, puis le bureau de la mairesse n'est pas au courant, puis les membres du comité exécutif ne sont pas au courant. Madame Moserolle se dit peinée et trouve regrettable ce qui est arrivé. Elle dit que ça crée beaucoup de confusion. Et Mobilité Montréal prenait de l'avance parce qu'ils ont beaucoup de parcomètres à faire, tu sais, c'est évident. Puis là, Ville-Marie, mais évidemment que ce serait aussi en vigueur dans d'autres arrondissements. Alors là, c'est en pause. Là, c'est ce qu'ils se sont fait prendre, dans le fond. Ça ressemble à ça. Ils sont peut-être pas capables de le justifier. Ils n'ont pas consulté personne. Puis ils ont décidé jusqu'à 23 heures. On arrive en pleine période là où le centre-ville va regorger de festivals, d'activités, puis c'est là que ça bouge. C'est pas en hiver que c'est un gros enjeu. Alors, on va parler avec Mme Moserolle tantôt. Secteur de l'éducation, on le sait déjà là, qu'il manque de profs dans les écoles. D'ailleurs, on le voit avec les chiffres de ce matin dans le Journal de Montréal. 2600 postes vacants dans différentes écoles. Alors, des profs, bien sûr, des éducateurs, des techniciens en éducation spécialisée, psychologues, orthophonistes, psychoéducateurs, des postes de direction, direction adjointe. Alors, il manque plein de gens. Et je vous donne deux petites nouvelles ce matin qui confirment cette réalité. C'est Radio-Canada qui nous dit qu'il y a des écoles qui envisagent, dans le nord de Montréal, de retourner les enfants chez eux à l'heure du midi, parce qu'ils n'ont pas de surveillants. C'est le centre de service scolaire des Mille-Îles. Puis en plus, ils disent aux parents, ça va vous coûter plus cher à la rentrée, mais ça se peut qu'on ne puisse pas garder votre enfant. Puis là, on va déterminer, en fonction de l'endroit où vous habitez, si tu es prêt, moyennement loin de l'école, est-ce qu'il y a un enjeu, par exemple, à un enfant qui a plus de difficultés? Donc, ça va vous coûter plus cher, mais ça se peut que des jours, on vous explique que c'est pas possible. Hey, comprenez-vous que les parents sont furieux. Déjà que tu gères avec un transport scolaire chaotique. Déjà que dans d'autres écoles, on explique qu'on va commencer à 7h30 le matin. Ça pose aussi un problème d'organisation aux parents. Et là, on nous dit, soyez rassurés, votre enfant ne sera pas mis froidement à la porte si la capacité d'accueil du service de garde est dépassée. On va savoir vivre, là, on ne le laissera pas sur le trottoir. Et il semble qu'on a besoin de 300 personnes de plus pour gérer l'heure du midi dans les écoles. Parce que le ratio a changé. Ça, c'est un exemple. Et pendant qu'on manque de profs, entre autres, je vous raconte l'histoire de deux enseignants qui sont du centre de service scolaire Marguerite Bourgeois, des gens qui m'ont écrit, qui depuis le 2 avril n'ont plus de statut. Ce sont deux personnes originaires de France. Ils ont un refus de renouvellement de permis de travail parce que il manquait le numéro d'offre d'emploi. On est là dans la bureaucratie. Et ces deux personnes, ces deux enseignants, ont leur numéro, mais ils n'étaient pas dans le formulaire. Alors, au lieu de nous le demander, le gouvernement fédéral a refusé la demande. Et là, ils doivent dépenser 800 $ pour faire une nouvelle demande et attendre encore une fois plusieurs mois avant de pouvoir travailler. On a besoin de profs, ils sont déjà là. C'est là que tu te dis, mais comment ça se fait que la bureaucratie, la machinerie de paperasse n'est pas capable de s'ajuster? Alors, déjà qu'on manque de profs un peu partout au Québec, Marguerite Bourgeois, puis c'est pas la faute de Marguerite Bourgeois, ils ont deux profs qui peuvent pas enseigner, pas parce qu'ils sont pas compétents, pas parce qu'ils veulent pas, c'est parce que il manque un chiffre dans la patente pour que le formulaire passe. C'est quand même assez... la maison des fous, là, c'est un exemple de ça. La Fondation Trudeau, on y revient. Le Devoir nous dit ce matin que l'Université de Montréal, qui a négocié avec les gens d'affaires chinois qui avaient des centaines de milliers de dollars à donner, ont remarqué que la présence de la Fondation Trudeau était plus ou moins appréciée. Donc, c'est sûr que la Fondation a demandé l'argent, a réclamé l'argent, se sont entendus sur 200 000 $. C'était Guy Lefebvre, à l'époque, qui était vice-recteur aux affaires internationales et à la francophonie, qui a rencontré M. Bin, Zhang Bin, qui n'était pas très content de voir la Fondation Trudeau dans le décor. Puis on comprend que les Chinois, eux, ce qui les intéressait surtout, c'était de financer l'Université de Montréal. Et donc, de se faire rembourser. Et même si on a appris par la suite qu'il y avait remboursement, on sait que l'université joue encore un peu là dans le mode hésitation. On reconnaît que c'était peut-être une erreur à l'époque, mais est-ce que la fondation, et là je vais citer M. Lefebvre, voulait avoir leur cote sur le million de dollars? Je peux pas vous le dire. Donc, est-ce qu'ils ont joué un rôle d'intermédiaire? Et Jean-François nous a très bien décrit, Jean-François Lépine, la semaine dernière, vendredi, qui sont les acteurs, qui sont ces gens d'affaires et les liens avec le gouvernement chinois. Alors, c'est assez intéressant. Puis, il y a cette description aussi qui est faite ce matin dans le Globe and Mail. Puisqu'on parle de l'Université de Montréal, je vais vous raconter une autre histoire mystérieuse. Et c'est l'histoire d'un prof de mathématiques qui fait l'objet d'une plainte. Mais on ne sait pas une plainte de quoi exactement. Et lui non plus, ça a l'air qu'il ne sait pas. Alors, c'est quelqu'un, plus une personne ou deux, qui a décidé de porter plainte au bureau du harcèlement, du racisme et des violences à caractère sexuel. Alors, comme vous pouvez le voir, là, le champ d'accusation est assez large. Ce professeur, qui s'appelle François Lalonde, a été convoqué par la vice-doyenne aux affaires professorales. Et on lui a dit qu'il faisait l'objet d'une enquête et qu'il ne sait pas de quoi on l'accuse et donc il ne peut se défendre. Alors, ce professeur a pris la décision de ne pas remettre les notes de cours avant d'avoir reçu des excuses pleines, sincères et publiques du bureau sur le harcèlement. C'est ce qu'il a envoyé comme courriel aux étudiants. Pour ceux et celles qui le veulent, voici les adresses où vous pouvez demander que le bureau présente des excuses. Et là, on entre dans la période de l'examen final, c'est-à-dire à partir d'aujourd'hui. En fait, il y a aujourd'hui un examen, puis samedi prochain. Puis il dit, tant que j'aurai pas les excuses, ben, il n'y aura pas de notes. Alors, les des étudiants qui savent pas de quoi on parle, à ce que c'est un problème dans le cours. Puis Paris, il a parlé de ça dans son cours aussi, dans un de ses cours. Et on va parler avec une étudiante qui aimerait bien, un, savoir de quoi on parle, et deux, qu'elle puisse avoir, comme les autres, ses notes également. Rapidement, dans les autres nouvelles, il faut parler du Soudan, qu'on a vu en fin de semaine, cette montée de la violence. C'est un pays très stratégique qu'on connaît peu, dont on parle peu. Notre ami Jean-François Lépine va y revenir, mais vous avez comme deux généraux qui s'affrontent depuis la fin de la dictature. Et on a vu, évidemment, ces avions de combat qui ont déchiré le ciel de Khartoum, la capitale, encore hier, des tirs de roquettes qui ont été lancés, des barrages d'artillerie visant des quartiers des forces en présence, une tour qui a complètement flambé, des avions civils qui ont été bombardés près de l'aéroport. Alors, donc, ces deux généraux qui s'affrontent, et il y a un balai diplomatique important, parce qu'on a peur aussi de l'effet domino dans la région, alors qui se déroule actuellement, donc on craint une espèce de contagion. Ça fait pas mal le tour de nos manchettes. Peut-être juste compléter en vous disant qu'un dissident reconnu de Poutine a été condamné à 25 ans de prison pour s'être opposé en Russie à la guerre en Ukraine. C'est un militant, un activiste de longue date, et c'est probablement, depuis les dernières années, là, une des peines de prison les plus lourdes imposées à quelqu'un qui s'oppose au régime de Poutine.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand.
On va parler des parcomètres de Montréal. Il y a eu, avouons-le, une espèce d'imbroglio en fin de semaine, alors que le journal de Gazette nous apprenait que l'horaire payant des parcomètres était prolongé, notamment là, dans le centre-ville de Montréal, bon, l'arrondissement Ville-Marie. Et là, c'était assez clair, là, sur des rues comme Bishop, on avait déjà commencé à mettre les fameux collants pour changer les heures. On a regardé ce matin sur Mansfield, et la proposition qui est faite, c'était de dire, ben, période tarifée, lundi à vendredi, 8h à 23h et non plus 21h. Samedi, 9h à 23h. Puis même le dimanche, alors que ça commençait en début d'après-midi, ben là, c'était de 9h le matin à 18h. Et on s'est dit, pourquoi? D'autant plus que les montants dans certains parcomètres avaient augmenté depuis le mois de mars, je pense. 1er avril, en fait. 3,75 à 4 $. Et là, la ville de Montréal nous a dit hier, attention, attention, là, c'est pas tout à fait ça. C'est repoussé, c'est retardé. Sophie Moserolle est la responsable du transport et de la mobilité au comité exécutif de la ville de Montréal. Madame Moserolle, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand.
Bon, là, je veux juste comprendre, là. Parce que là, l'agence de mobilité a décidé quoi, sans vous le dire, de changer la période horaire de tarification?
Bien, en fait, tu sais, nous, on donne des orientations générales, puis effectivement, là, ce qui s'est passé, puis c'est vraiment regrettable, parce que ça a généré beaucoup de confusion, comme vous l'avez mentionné. C'est qu'ils sont partis, là, justement, avec cette opération de collant-là, sans qu'on le sache. Donc, quand on a été mis au courant, là, on a mis tout de suite sur stop tout ce déploiement, parce que évidemment, là, on n'a pas eu l'occasion d'échanger avec nos partenaires, que ce soit les sociétés de développement commercial, les commerçants, comme on fait toujours, là, d'habitude, quand il y a des propositions de modification.
OK, mais Mme Moserolle, comment une agence municipale peut décider d'augmenter la période de tarification sans avoir eu l'autorisation? Juste comprendre ça, là.
Mais comme je mentionnais, nous, il y avait quand même une intention. Là, tu sais, avec l'agence de mobilité, on veut tester différentes choses. On veut optimiser la mobilité au centre-ville. Donc, tu sais, évidemment, il y avait quand même des propositions qui étaient sur la table. Nous, on voulait aller rencontrer nos partenaires, un peu discuter avec eux, échanger, voir qu'est-ce qu'ils en pensaient. Mais là, visiblement, il y a vraiment eu des étapes qui ont été escamotées. C'est regrettable, mais c'est ça. Là. La machine s'est comme emballée, puis elle est partie plus vite que nous. Fait que là, on a mis tout ça sur pause. On va aller voir notre monde, comme on fait toujours. Puis s'il y a des ajustements à faire, là, évidemment qu'on va... On va les faire.
OK. Peut-être j'ai mal compris, mais j'avais cru lire dans The Gazette que vous aviez dit aux chroniqueurs que vous étiez pour déployer cet horaire-là dans 2 semaines.
Non, du tout. Il y a vraiment eu une mécompréhension. Là, tout a été mis sur pause. C'est statu quo pour l'instant. Les horaires ne changeront pas. On était vraiment en mode réflexion, en mode tentatif, projet pilote. Puis comme on fait toujours, on va aller s'asseoir avec les sociétés de développement commercial qui représentent les business, parce qu'à terme, ultimement,
mais là, ce qu'on là, veut. Ouais. C'est sérieusement, il y a de la misère à comprendre ça. Moi, comment dire? Comment on peut imprimer des collants par milliers qu'on a commencé à installer? J'en ai à côté de la station ici sur Mansfield. Il y en a partout au centre-ville qui ont commencé avec un nouvel horaire. C'est pas un projet pilote, là. Ils ont dû dire, c'est autorisé par la ville, cette affaire-là.
Mais écoutez, visiblement, il y a vraiment une mécompréhension. C'est regrettable, comme je le mentionnais, c'est vraiment pas l'idéal. Ça a généré de la confusion. On n'est pas ben content, nous non plus, mais tu sais, ça arrive. Idéalement, on veut que ça arrive le moins possible, mais ça arrive. Là, on a parlé à tout notre monde vendredi. On a averti tout le monde, les sociétés de développement commercial. On va aller s'asseoir avec eux autres. On va faire les choses dans le bon ordre. Puis comme je le mentionnais, s'il y a des ajustements à faire, on sera là, on va les faire. Mais, tu sais, quand on prend des décisions pour le centre-ville, on le fait tout le temps avec les partenaires. On vient de sortir du sommet chantier. On a eu des super belles propositions qui viennent du milieu qu'on va mettre en œuvre ensemble. Ça va être la même chose pour cette fois-ci, là.
OK, mais là, c'est 24 heures de plus par semaine de stationnement payant. Est-ce que vous êtes en train de me dire que là, vous mettez ça à pause, mais que dans 3 semaines, vous allez le faire?
Mais tu sais, les orientations générales qu'on donne à l'agence, ultimement, ce qu'on veut, c'est que dans les secteurs où qui sont très achalandés, on veut accroître la disponibilité des places pour qu'il y ait plus de monde qui aille dans nos commerces, qui aille dans les bars, qui aille dans les restaurants. Mais comme je le mentionnais puis comme je le réitère, on ne fait jamais ça de manière unilatérale. C'est tout le temps en partenariat avec notre monde. Fait qu'on va discuter avec eux.
OK, mais Mme Mazerolle, on va se parler franchement. Ouais. Ça s'en vient, des augmentations d'heures tarifiées. Là. Je veux dire, là, je comprends, là, vous avez été déstabilisé, ça a fait la une de la Gazette. Puis là, les partenaires ont dit, mais c'est quoi cette affaire-là? Mais là, c'est une intention. Vous voulez augmenter les plages horaires payantes dans le centre-ville de Montréal avec les parcs-mètres. On va se le dire franchement.
On verra. Par contre, ça fait plusieurs mois qu'on le dit, avec l'agence, ce qu'on veut, c'est vraiment, puis on l'a vu, c'est souhaitable là, sur les affaires commerciales. En fait, quand on augmente le taux de roulement, ça fait plus de clients. Cela étant dit, comme je l'ai dit, si on se fait dire par nos partenaires, on n'est pas tout à fait certain que c'est l'effet que ça va donner, on n'est pas certain que ça va avoir les résultats escomptés, on va s'ajuster et c'est toujours ça qu'on fait. C'est
là,
toujours
ça, veut
ça
dire...
qu'on fait quand on parle aux sociétés de développement commercial, au business. Ouais. Mais... On jase avec eux autres puis on s'entend. Là. T'sais, nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait du monde dans le commerce, on veut que notre centre-ville soit rayonnant, on veut que les gens aient le goût d'y aller. Fait que les décisions qu'on prend, c'est dans cette optique-là tout le temps.
OK, mais exemple, il n'y a pas de parcomètre payant avant 1 heure l'après-midi, le dimanche. Les gens venaient au centre-ville, pouvaient stationner, prendre 2-3 heures, ou là, ça serait terminé à partir de 9 heures. Enfin, l'autre chose, est-ce que là, les collants sont enlevés?
Bien, là, pour l'instant, on a mis pause aux opérations. On va aller jaser avec notre monde, puis on avisera, là, c'est sûr que c'est...
Non, attendez. Moi, là, j'arrive, là, ça va être écrit jusqu'à 23 heures, là. Vous me dites, non, c'est à pause, mais si le collant est là, moi, je ne sais pas que c'est à pause.
Je comprends, ceci dit, on va quand même prendre le temps de jaser avec notre monde, là, ça arrive vendredi. Fait que, tu sais, on va prendre une décision très rapidement en concertation avec notre monde, puis on s'ajustera en conséquence.
Mais comment en concertation avec notre monde? Pourquoi vous n'êtes pas capable de me dire ce matin... On va enlever les collants parce que les tarifs ne changent pas?
Bien, c'est juste une question d'opérationnalisation. Comme je le mentionnais, là, eux, ils ont pris de l'avance parce que c'est long à mettre les collants. Fait que là, il va falloir les retirer le cas échéant. Mais tu sais, il faut qu'on voit comment faire ça. Mais là, en ce moment.
Mais Mme Mazerolle, ça ne peut pas être le cas échéant. À moins que vous me contiez des histoires un matin et que ça va être en vigueur dans 3 semaines. Ce que vous me dites, c'est que vous voulez consulter les gens. Entre-temps, le touriste, le citoyen qui vient au centre-ville, qui voit les plages horaires, se dit à 22 heures, faut que je paye.
Je comprends, M. Arcand, mais on a été mis au fait de la situation vendredi. On est lundi. On va prendre les décisions qui s'imposent très rapidement. Moi, je veux m'assurer qu'on parle au monde, mais tu sais, très rapidement, on va s'ajuster. Là, c'est bête. C'est un bête cafouillage. Ça arrive idéalement le moins possible. Mais là,
c'est pas un bête cafouillage, c'est pas rien. Là, je veux dire, quelqu'un qui décide supposément, qui a mal compris la directive, que le monde se parle, mais ils se comprennent pas, puis ils décident que c'est 24 heures de plus d'heures payantes à Montréal.
De toute façon, M. Harker, dans l'application, les montants vont être tels que tels, puis les horaires vont l'être. Fait que les gens ne pourront pas comme payer, ça sera pas effectif, les heures ne seront pas effectives.
OK. Sur mon application, ça sera pas changé. C'est pas changé.
Effectivement. Fait que je comprends que c'est pas l'idéal. Je l'ai dit d'entrée de jeu. On va s'assurer de régler ça très, très rapidement, mais pour l'instant, les gens n'auront pas à payer, ça sera pas changé dans l'application. Puis, s'il y a des ajustements à faire, on va les faire, évidemment. Là, il y a vraiment des étapes qui ont été escamotées. Puis, malheureusement, l'opération, c'est comme faite plus vite, trop vite, puis on n'a pas eu le temps de faire les choses en bonne et due forme, comme on fait toujours par ailleurs, là.
Ouais, mais est-ce que c'est changé dans l'application, juste pour être sûr?
Ah, ben vous pouvez regarder, mais non,
mais c'est ça que je suis en train de
dans l'application, là. Il n'y a rien qui bouge.
OK. Mais moi, je suis convaincu, là, on est le 17 avril. D'ici la fin de l'été, ça va s'implanter. Ils n'ont pas imprimé ça sur un coup de tête.
Monsieur Arcand, je tiens à vous rassurer. Je rassure les gens, je rassure les commerçants, je rassure les business. Nous, ce qu'on veut, c'est les aider, ces business-là. Fait qu'on va prendre les décisions.
Mais vous voulez ramasser aussi, vous cherchez des revenus. Fait que c'est quand même une façon d'aller en chercher.
Ah, ben c'est sûr que des parcs-mètres, c'est des revenus. Ceci dit, l'agence de mobilité, sa job, c'est pas de ramasser du cash, c'est d'optimiser la mobilité.
OK, merci, Mme Moserolle.
Merci, M. Arcand, plaisir.
Au revoir. Sophie Moserolle est la responsable du transport et de la mobilité au comité exécutif de la Ville de Montréal. On verra pour la suite des choses. Mais sérieusement, c'est dur à croire que l'agence a décidé par elle-même d'imprimer des milliers de collants pour indiquer le changement d'heure, que tout ça se fait, qu'ils ont commencé à mettre les collants au centre-ville, puis que le bureau de Valérie Plante n'est pas au courant, puis qu'ils découvrent ça par hasard, puis qu'il y a un stop à l'opération. C'est assez dur à croire. Je pense qu'on se souvient tous de cette triste histoire. C'est un petit bonhomme de 5 ans qui a été retrouvé dans le fond d'une piscine privée, familiale. Et d'après ce qu'on croit, il est resté sous l'eau de 15 à 20 minutes. Il a été hospitalisé à Sainte-Justine, dans le coma, intubé. Et il y a une bataille qui s'est engagée entre les médecins qui voulaient extuber l'enfant en disant que c'était mieux pour lui, et les parents, qui, pour des raisons religieuses, souhaitaient que l'enfant conserve le tube en question et que les traitements puissent se poursuivre. Donc, ils étaient convaincus que l'enfant était pour survivre. Et ils sont allés en appel, ils ont perdu. Finalement, le garçon a été extubé au mois de février. Et on n'a pas beaucoup de détails, mais on dit que son état s'est amélioré à un point où il peut obtenir son congé de l'hôpital Sainte-Justine aujourd'hui. Je vais en parler avec l'avocat qui a représenté la famille, Maître Patrick Martin Ménard. Maître Martin Ménard, bonjour.
Bonjour.
D'abord, je veux juste essayer de comprendre exactement. Là, l'enfant comme tel, on l'a extubé suite au jugement au mois de février.
Oui, et c'est pour rectifier ce que vous venez de dire. La bataille, c'était pas sur la question de savoir si on devait l'extuber ou non. La bataille, c'était sur la question de savoir une fois que l'enfant serait extubé, est-ce qu'on gardait ouverte la possibilité de le réintuber. Les parents souhaitaient pouvoir le réintuber au besoin si jamais il y avait une condition médicale ou autre qui nécessitait une réincubation. C'est que l'hôpital Sainte-Justine refusait catégoriquement. Et finalement, la Cour a donné raison à l'hôpital Sainte-Justine à ce niveau-là.
OK. Mais ça veut dire donc qu'une fois extubé, on ne pouvait pas le réintuber.
Voilà.
OK. Et donc, le 16 février, il a été extubé. Je ne veux pas entrer dans tous les détails, mais pour qu'un enfant soit comme ça, intubé, et qu'un mois plus tard, il puisse sortir de l'hôpital, ça veut dire qu'il a fait un certain nombre de progrès?
Oui, et évidemment, on ne pourra pas rentrer dans tous les détails au niveau médical, mais sa condition est telle qu'il est suffisamment stable 2 mois après l'extubation. L'extubation a eu lieu le 16 février dernier. Donc, 2 mois plus tard, l'enfant est en mesure de quitter l'hôpital.
OK, mais je comprends, là, mais cet enfant-là, il était dans un coma, il était sévèrement atteint.
Oui, il était sévèrement atteint. Il n'était pas, par contre, en état de mort cérébrale. Il avait quand même plusieurs fonctions, plusieurs capacités. Et évidemment, donc au moment où la décision était prise de l'extuber, là, on estimait à 50% ses chances de survie à court terme, avec un haut risque de complications à moyen terme. Et finalement, il a traversé toutes ces étapes-là. Et maintenant, il est en état de sortir de l'hôpital.
OK. Mais vous savez que la question que les gens vont se poser, c'est quel genre de vie cet enfant-là va avoir?
Donc, c'est une question qui se pose toujours dans ce genre de situation-là. Je pense que c'est une histoire à la base qui est très difficile, qui est très triste. Mais les parents sont tout à fait conscients là, des défis rattachés à un enfant dans cette condition-là. Il y a plusieurs personnes qui ont subi des épisodes similaires et qui, en bout de ligne, parviennent à vivre avec les adaptations qui sont nécessaires.
OK, mais très clairement, ça veut dire que c'est pas un enfant qui peut aspirer à une vie normale, c'est pas un enfant qui va aller à l'école, c'est un enfant qui va vivre, mais dans des conditions très limitées.
Ben, écoutez, encore une fois, par respect pour la famille, pour la confidentialité, je ne rentrerai pas dans le détail des limitations de la condition actuelle de l'enfant. Maintenant, c'est certain que, je pense que c'est bon, vous connaissez ce type de réalité-là, le type de défis qui sont rattachés avec des personnes qui subissent des quasi-noyades. C'est un petit peu la réalité qu'on a tous devant nous dans ce genre de situation-là.
OK. Encore là, je respecte là, le lien entre vos clients et vous, là, mais est-ce qu'on peut dire que ce sont des gens qui ont été portés, évidemment, par l'amour de leur enfant, de leur fils, mais aussi par des questions religieuses?
Non. Je vais être bien clair là-dessus. Okay, c'est que en bout de ligne, ces parents-là souhaitaient pouvoir ramener leur enfant à la maison, puis lui donner tout, pouvoir répondre à l'ensemble de ses besoins, peu importe quel serait l'ordre de ses besoins. Évidemment, confronté à une situation difficile comme ça, je pense que chaque famille en viendrait à prendre des décisions qui sont différentes et c'est une décision qui leur appartient. Évidemment, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision à prendre dans une situation comme ça. C'est une famille qui sont tout à fait conscients, je pense, de l'ensemble de l'information de nature médicale et qui, face à ça, en fait, se sont prêts à répondre à aux besoins de leur enfant. Oui, il y avait évidemment, évidemment, c'est une famille qui est très croyante. Leur foi leur a un peu a été pour eux, je pense, une source de force pour leur aider à traverser cette épreuve très difficile-là. Je pense qu'aucun parent ne voudrait avoir à traverser. Et on peut être très fort là-dedans, tant au niveau de la bataille judiciaire qu'au niveau de l'épreuve médicale. Et bon, ça fait en sorte qu'on est rendu là où on est rendu aujourd'hui.
Parfait. Merci beaucoup, Maître Martin Ménard. Bonne journée.
Merci.
Au revoir. Maître Patrick Martin-Ménard est l'avocat de la famille. Alors, donc, en principe, l'enfant va quitter l'hôpital Sainte-Justine aujourd'hui.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand.
Dans la catégorie des mystères, il y a une plainte qui a été logée à l'Université de Montréal contre un professeur. Une plainte qui peut être interprétée de plusieurs façons. Et le prof, qui s'appelle François Lalonde, a écrit aux étudiants en disant qu'il faisait l'objet de cette plainte, mais qu'il ne savait pas exactement pourquoi. Qu'est-ce qu'on lui reprochait? Puis quand vous regardez la nature du mandat de ce bureau, qui est le bureau sur le harcèlement, le racisme et les violences à caractère sexuel, ben disons que ça peut être assez large comme possibilité. Or, M. Lalonde, qui est professeur de mathématiques, a décidé, lui, il a envoyé un courriel à ses étudiants et étudiantes en disant, tant que j'aurai pas d'excuses de l'université, vous aurez pas vos notes. Alors, il y a beaucoup de gens qui, évidemment, sont inquiets de ça. Sophie, c'est pas son vrai nom, là. Il faut protéger son identité. Elle est étudiante à l'Université de Montréal. Sophie, bonjour.
Bonjour, M. Arcand, ça va bien?
Bien. Racontez-moi d'abord un peu comment vous avez appris là, l'existence de cette plainte puis des conséquences que le prof imposait.
Oui. Le professeur a commencé par nous en parler lors d'un cours, comme quoi il avait reçu une plainte contre lui puis qui nous invitait dans le fond à écrire au bureau et à la faculté pour le défendre en quelque sorte. Puis ensuite, il nous a aussi envoyé un courriel le samedi vers 9h50 le soir pour nous indiquer qu'il ne nous remettrait pas les notes et qu'il fallait qu'il reçoive des excuses officielles, publiques, sincères, puis qu'il nous invitait à écrire à la faculté et au bureau contre le harcèlement pour demander des excuses formelles.
Puis est-ce qu'il vous a dit la nature de la plainte, de quoi on l'accusait?
De ce qu'on a compris, ce serait par rapport à certains commentaires qu'il aurait dit en classe, qui aurait pu offusquer une certaine personne justement qui a logé la plainte. Mais on n'a pas eu nécessairement plus de détails.
Et lui non plus, d'après ce qu'il dit, là. On est demeuré assez flou.
De ce qu'il a l'air d'avoir dit, c'est que à l'Université de Montréal, il a été rencontré par la faculté et le bureau, mais qu'il n'aurait pas été écouté, puis que la plainte restait parce que l'université, généralement, croit plutôt les plaignants que le professeur.
OK. On a demandé au professeur, en fait, on a tenté d'entrer en contact avec lui, on n'a pas eu de retour. Vous, c'est votre prof. Comment vous pourriez le décrire? C'est quelqu'un, coloré, c'est un prof qui a beaucoup d'expérience. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le prof?
Il a définitivement beaucoup d'expérience. C'est une sommité en mathématiques. Il est quand même assez spécial, je veux dire. Il est beaucoup en train de donner ses opinions. Parler d'une mathématicienne qui est belle et somptueuse. Donc, c'est vraiment teinté d'opinion, là. Surtout dans un cours, dans notre cas, d'histoire des mathématiques.
OK. Puis, est-ce que vous entendez des commentaires négatifs sur lui de la part des autres étudiants et étudiantes?
Honnêtement, non.
OK.
Je ne sais pas à quel point la plainte originelle a été fondée ou si elle ne l'était pas. Moi, le problème, c'est vraiment le courriel qui est venu par la suite.
Faire pression sur les...
Exactement.
Pour obtenir votre appui. Mais ça veut dire, là, si je me fais au courriel que j'ai vu, il y a un examen aujourd'hui, puis potentiellement un autre samedi. Ça veut dire que vous passez l'examen, puis tant que les excuses ne sont pas formulées par l'université, pas de notes.
Exactement.
Comment vous prenez ça?
C'est sûr que sans notes, on peut pas vraiment recevoir notre bac. Pour les gens qui sont en enseignement, le quatrième stage arrive. Puis, si on n'a pas toutes nos notes, le quatrième stage, il tombe à l'eau. Donc, c'est possiblement une année de plus qui va s'ajouter. Ça rajoute du stress inutile.
Oui, c'est sûr. Souhaitons que ça se règle. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci infiniment.
Au revoir. Sophie, étudiante à l'Université de Montréal. On a tenté d'avoir réaction de l'université, puis également du prof, ce qui n'a pas été le cas. Mais, donc... sur des commentaires qu'il aurait fait en classe.
L'essentiel de Paul Arcand.
Benoît Charrette est avec nous pour nous parler de l'annuel de l'auto d'occasion ce matin. Bonjour Benoît.
Bonjour Paul, je jure de dire la vérité. Toute la vérité.
J'espère.
Juste la vérité.
J'espère. Surtout quand tu me parles de voiture d'occasion, t'es mieux de me dire la vérité.
C'est ça.
Non, mais c'est un marché qui a tellement changé depuis la pandémie, là. On a vu la rareté des voitures neuves.
Voilà, et qui produit du même coup la rareté des véhicules d'occasion.
OK, si t'avais à résumer comment ça a changé dans les trois dernières années.
Bon, c'est pas compliqué, Paul. Tout ce qui a trois ans ou moins se vend le prix d'un neuf en ce moment. Alors, si vous regardez pour un véhicule d'occasion, nous, on a fait l'exercice parce que tous les prix sont dans le livre. Et les modèles 2020, 21, 22, à quelques centaines de dollars près, se vendent pratiquement le prix d'un neuf. C'est ce qui décourage beaucoup de monde parce qu'il y a beaucoup d'attentes pour les modèles neufs. Pas juste les modèles neufs électriques, là, où c'est encore pire,
oui. Ou
les hybrides branchables, mais même des modèles là ordinaires. Là, j'ai quelqu'un qui m'a appelé il n'y a pas longtemps pour un Subaru Crosstrek. Là, on s'entend que c'est rien d'exotique. Un an d'attente. Donc, ça fait en sorte qu'il dit « OK, je vais aller dans l'occasion. » Mais là, regarde l'occasion, puis Colin, ça baisse pas. Faut pratiquement attendre la quatrième année avant de voir une baisse là, pour des modèles populaires. Là. Donc, la situation est là en ce moment. Ça va rester comme ça beaucoup pour 2023. À partir de l'année prochaine, les constructeurs nous promettent d'avoir un meilleur approvisionnement en véhicules neufs. Donc, du même coup, ça va contribuer à augmenter aussi l'approvisionnement en véhicules d'occasion. Et là, on va probablement commencer là à avoir des baisses un peu au niveau des prix.
Une question qui revient souvent, il y a beaucoup de gens qui sont en location.
Oui.
Arrive la location qui se termine.
Exact.
Et là, c'est le choix. Est-ce que je rachète l'auto ou si je la laisse aller?
Bon. Dans la plupart des cas, ça vaut la peine de racheter. Surtout si vous avez pris une location là, en 2018-19, avant la pandémie. Parce que généralement, le véhicule sur le marché vaut beaucoup plus cher que le résiduel que vous avez au contrat. Je donne un exemple récent. Un ami à moi avait un Audi qui valait 25 600 $ à son contrat et 37 600 $ sur le marché. Il a racheté son véhicule et même s'il le garde encore un an ou deux, il va encore faire de l'argent avec, même en le revendant. Et ça donne le temps d'attendre le prochain véhicule. Parce que là, c'est ça le problème. Souvent, ah ben là, c'est le temps de changer. Tu sais, avant, on allait chez le concessionnaire, on jasait un peu, puis au bout de 10 jours, on avait un autre véhicule. Mais là, 6 mois, un an, 2 ans, 2 ans et demi. Fait que là, j'ai dit, ben, garde-les et prends une commande tout de suite d'un modèle qui t'intéresse. Puis quand il arrivera, ben, vends-les, puis prends le suivant. Là.
OK. L'autre question, quelqu'un qui veut acheter un véhicule d'occasion comme ça, là, quand tu regardes l'état du marché,
ouais,
il doit s'y prendre combien de temps d'avance, là, de dire là, je pars. Là, l'exemple que j'ai en tête, là, c'est un monsieur qui m'a écrit ce matin qui dit, il est allé magasiner des autos, c'est compliqué, il trouve pas, c'est pour son fils, son premier véhicule, il va avoir 18 ans.
Ouais.
C'est quoi la meilleure stratégie?
Bon. Passez au moins 6 mois d'avance. Là.
6 mois?
Ah oui, il faut passer 6 mois d'avance. Parce que, d'abord, l'approvisionnement est pas gros. Il faut avoir une bonne idée du modèle qu'on recherche. Et comme il n'y en a pas beaucoup, les recherches sont plus longues. Et il faut se faire un budget. Les véhicules d'occasion, faut travailler un petit peu plus fort. Parce que là, bon, il n'y a souvent pas de garantie. Ou s'il en reste, c'est pas grand-chose. Oui. D'autant plus que là, il faut reculer plus loin dans le temps. C'est pour ça que nous autres, on a fait 7 ans dans le livre, parce que je faisais 5 ans avant, mais j'ai réalisé que 5 ans, c'était pas assez parce que les prix baissaient pas suffisamment au goût des gens. Fait qu'on a reculé 2 ans de plus. Il faut aussi tenter d'avoir un minimum d'informations, vérifier si le véhicule est en bon état. Donc, avant, là, on pouvait, en général, deux semaines, trois semaines de recherche, là, on arrivait à se faire une idée des modèles. Là, maintenant, moi, beaucoup de gens m'ont dit, là, ça fait un mois que je regarde, là, puis j'ai...
Tu sais, avant, on se posait la question, quels sont les modèles qui vieillissent bien, là? Je parle pas de l'entretien ou...
Non, des modèles en général.
Tu sais, bien fait à la base.
Exact.
C'est encore le cas, il y a des modèles mieux faits que d'autres.
En fait, moi, je dis souvent aux gens, allez voir là où peut-être tout le monde ne va pas regarder déjà. Parce que c'est de l'offre de la demande. Bon, regarde, je pense à un Mitsubishi Lancer, qui est un bon véhicule, qui n'existe plus depuis 2017. Donc, ça fait déjà 6 ans qu'il n'y en a plus, mais il y en a encore sur le marché. C'est un véhicule très solide, que vous allez avoir un prix raisonnable, parce que bon, il y a déjà 6 ans. Puis c'est un modèle qui n'a pas bougé entre 2007 puis 2017. Que vous achetez n'importe quoi en ces années-là, à peu de détails près, c'est le même modèle. Il y avait une garantie de 5 ans. C'était bien garanti. C'était un bon modèle. On peut parler d'un modèle comme le Hyundai Accent, qui a été produit jusqu'en 2020, qui reste un bon petit modèle, qui est pas cher. Parce que souvent, les gens, c'est un deuxième véhicule. C'est un véhicule pour l'ado de la famille ou pour dépanner les enfants. Donc, puis ça, avant, c'était facile de trouver un véhicule en bas de 10 000 $ qu'on payait pas trop cher, qui avait encore même des fois un bout de garantie. Là, il faut reculer de 6-7 ans. Fait que là, il n'y a plus de garantie. Le véhicule a plus de millage. Puis là, les gens se disent, je vais s'investir. Parce qu'il y a toujours le même 10 000 $ à dépenser. C'est ça le problème. Puis là, on ne peut plus avoir des véhicules relativement récents à 10 000 $. Il faut reculer plus loin dans le temps. Fait que pour en avoir plus pour son argent, d'aller voir des modèles peut-être un peu moins populaires, comme il y a moins de demandes, généralement, le prix est un peu plus bas.
Ce qui veut dire, mais c'est ça, que les gens gardent leur véhicule pour la plupart parce qu'ils sont pas capables d'en trouver un autre.
Ah non, là, on est rendu, on est prêt, là, on était à 8 ans, l'âge moyen des véhicules avant la pandémie. On approche les 11 ans, là. Comme âge moyen là, du véhicule sur la route au Québec.
Là, la question naturelle, c'est est-ce que ces véhicules-là, là, puis je comprends le kilométrage, l'entretien et tout ça, là, mais tu sais, souvent on dit que c'est fait plus cheap qu'avant. Est-ce que ces véhicules-là sont faits pour durer 10, puis 11, puis 12 ans?
Moins qu'avant. Moins qu'avant. Écoute, je te dis pas qu'il n'y a pas de bons véhicules sur la route, mais je vais donner un exemple que les gens connaissent, la Toyota Corolla, qui était, on disait dans le mauvais français, il était over-engineered. C'était un véhicule, même on mettait les vis de boulon de coffre, étaient des en stainless, c'était en acier galvanisé. Là, on le voit, la finition, quand on arrive dans les parties moins importantes du véhicule, on a coupé un peu dans la qualité. Pour deux raisons. D'abord, on a voulu, du côté des constructeurs, continuer à essayer de garder les véhicules abordables. Fait qu'on a coupé dans les matériaux la qualité en quelque part pour être capable de les présenter à des prix réalistes. Puis l'autre chose, ben c'est comme beaucoup de produits maintenant, on calcule qu'au bout de 5-6 ans, les gens vont changer ça, puis il y a une espèce d'obsolescence programmée au niveau des véhicules sur la route. Ça peut se garder très longtemps si on fait attention, tout ça.
Ça dépend du kilométrage qu'on fait.
Si on fait le kilométrage, tout ça. Mais effectivement, il y a du utiliser, jeter là, de plus en plus. Là.
Un auditeur qui disait son père lui racontait toujours la même phrase. Tu le vends avant que le trouble commence.
Oui.
Tu le vends à quelqu'un qui, lui, a pas de problème à gérer les troubles que l'auto va avoir.
Exact. C'est pour ça, moi, je dis souvent, pour certaines compagnies, où si les gens veulent pas avoir de problème, conservez-les les termes de la garantie. Si vous avez une garantie de 3 ans, 60 000 km ou 5 ans, 100 000 km, dépendamment des compagnies, gardez-le le temps de qui est toujours sous garantie. Après ça, vous remettez les clés puis vous dites, on passe au suivant. De cette façon-là, ben, vous allez passer le problème à un autre.
Ouais, puis mais ça, c'est après ça l'accès pour qu'on puisse finalement en trouver de ces véhicules. Si tu veux les changer, là, c'est.
Et le problème est là en ce moment, c'est que c'est difficile de changer parce qu'il y a des gens qui disent je voudrais bien le changer, mais je trouve rien à mon goût, puis il y a beaucoup d'attentes.
Il y a un auditeur, j'ai du temps de te le dire, t'as un peu, qui dit je cherchais un 7 passagers dans l'occasion électrique. Le seul véhicule que j'ai trouvé. C'est un Pacifica 2018-19.
Ouais, hybride branchable.
C'est-tu bon?
C'est correct. L'hiver, un peu de problème avec la batterie, mais en général, c'est correct. C'est un bon véhicule.
Parfait. Merci, Benoît.
Salut, Paul.
Ça s'appelle l'annuel de l'auto d'occasion. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Puis on vous retrouve demain à compter de 5h30. Salut, à demain.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.